Radio Barque, le 33e deuxième partie avec notre invité du jour, Lionel Isaac, administrateur de l'Oppidum dans ses ruines, dans la commune ou sur la commune de Nissan-les-Anserunes, également d'ailleurs administrateur pour la forteresse de Salses-Château, mais ça c'est pour une troisième partie. Alors concentrons-nous, Lionel Isaac, sur ce site. Alors, Oppidum, ça semble un nom romain, mais c'est pas d'origine, enfin, ça va beaucoup plus loin que les Romains.
Oui, en fait, le nom d'Oppidum, c'est le nom que César, durant la guerre des Gaules, donne aux cités celtiques, aux cités fortifiées. Donc, c'est des lieux souvent implantés sur des hauteurs, comme en Anserunes, dans cette petite colline qui domine tout ce paysage languedocien aujourd'hui, avec ce très beau panorama. Et donc, César appelle ces villes gauloises Oppidum ou Oppida au pluriel, et c'est ce nom qui est resté. Mais l'histoire démarre beaucoup plus tôt que les Romains, puisque les premières attestations que l'on a en Anserunes d'occupation, on est plutôt entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des Celtes qui sont installés là, une population locale, qui vont progressivement commercer avec les Grecs, les Étrusques, les Ibères, donc du côté espagnol, au-delà des Pyrénées, qui vont venir très vite dans l'Aude et dans ce secteur audois pour commercer. Et puis, lorsque les Romains arrivent plutôt vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, progressivement, le secteur va se romaniser jusqu'à la guerre des Gaules.
Oui, évidemment, et à partir du moment où Narbonne devient la Narbonne romaine, ça a une influence. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors, une bonne page d'histoire, Lionel Isaac. Donc, ça naît vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, d'après
vous. C'est ça, entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est les premiers éléments les plus anciens.
C'est quoi, l'âge de bronze ou de fer pour l'historien?
Alors, c'est l'âge du fer. L'âge du fer, vraiment, ce sont les Celtes, qu'on appellera plus tard les Gaulois, qui sont vraiment implantés dans ce secteur.
Et alors, on a tendance à penser, mais c'est probablement un préjugé, que le commerce, à cette échelle, c'est les Romains qui l'ont établi, mais non, il existait bien avant, sur une échelle, par exemple, entre, alors on dirait aujourd'hui la France et l'Espagne, mais entre les Gaulois d'ici et peut-être des Celtes d'Ibérie.
Oui, il y a des contacts très importants, notamment avec ce monde côté espagnol aujourd'hui, qu'on appelait l'Ibérie, en effet. La preuve en est, c'est que l'on a la chance d'avoir sur les vases d'Anserunes gravés, à la pointe sèche, avec une pointe incisée en métal, des noms, des mots écrits en alphabet ibère, qui nous permettent de tester de cette présence très importante de ce commerce ibérique et de ces contacts avec certainement même des populations, des négociants qui étaient implantés dans ce secteur, dans notre région, et qui commerçaient. Et Anserunes était vraiment un point extrêmement fort de ce commerce avec ce monde ibérique.
Et est-ce qu'il y avait déjà, alors on connaît la voie Domitia, mais elle a été faite par les Romains, est-ce qu'il y avait déjà, selon ce qu'on sait, une route pour aller en Espagne, puisque la Via Domitia établit, paraît-il, une relation entre Rome et l'Espagne?
Alors, les fouilles montrent, à chaque fois qu'on a fait des sondages sur cette voie domitienne, la voie Domitia, qu'il y a souvent une présence de routes plus anciennes. En fait, le tracé de la voie Domitia, il reprend des tracés plus anciens. Il y a tout un réseau extrêmement performant que les Gaulois ont mis en place durant l'âge du fer, qui permettait de relier leurs cités et qui permettait de commercer déjà avant l'arrivée des Romains, avec par exemple les Grecs au port d'Agde, avec les Ibères dont on vient de parler, mais aussi avec les Étrusques qui arrivent très vite pour notamment les minerais, l'argent, le plomb que l'on connaît dans la montagne noire par exemple. Et ce commerce intéresse énormément ces populations méditerranéennes. On a également les céréales. En Anserunes, on a la chance d'avoir énormément de silos de grains qui est stocké, une sorte de grenier fortifié. Et on voit que là aussi, il y a des échanges très importants de ces céréales vers ces ports ou par ces voies terrestres qui existaient déjà, bien avant les Romains.
Bien avant les Romains, c'est ça qu'il faut préciser. Et alors, quand on fait du commerce, c'est qu'on a des choses à vendre. Alors, qu'est-ce qu'on avait à vendre depuis l'Oppidum d'Anserunes?
Alors, en Anserunes, on a un territoire autour de l'Oppidum, des fermes.
Parce qu'en Anserunes, c'est une cité. Enfin,
C'est une cité. Aujourd'hui, les dernières recherches montrent que la cité, à son extension maximale, elle s'étendait sur plus de 20 à 30 hectares. Donc ah, c'est vraiment
au-delà du sommet de la colline.
Au-delà du sommet de la colline, il y avait des systèmes de remparts successifs qui ont progressivement fortifié, y compris les abords de la colline. Et donc c'est vraiment une cité. C'est pas du tout un village gaulois, mais c'est vraiment une cité bien constituée avec une architecture, des quartiers, des rues, des places, des remparts. Et tout ce terroir autour de l'ancienne rune, il est contrôlé par cette cité, par les aristocrates, qui aussi vont exporter par exemple leur armement jusque chez les Ibères ou chez les Romains, notamment les fameuses épées gauloises, dont on a la chance d'avoir beaucoup d'exemplaires en Cérune, tu vois, dans les tombes. Ça fait partie aussi de ces objets qui étaient convoités par les autres populations méditerranéennes qui venaient se servir, en plus des minerais dont je parlais, qui étaient beaucoup plus rares, notamment le cuivre, en Grèce ou en Italie ou dans le monde ibérique. Donc c'est tous ces échanges de matériaux, de minerais qui sont en jeu.
Ah oui, alors là, s'il y avait des épées, c'est qu'on importait du minerai. Oui, et il y avait, je dirais pas une industrie, mais un artisanat très développé alors dans cette cité.
Oui, notamment tous les arts du feu en général, que ce soit le travail du bronze, le travail des métaux, mais aussi la verrerie. On a des bracelets en verre de très grande qualité et on a également un travail de la céramique qui est extrêmement soigné. On a la chance d'avoir une des plus belles collections de vases du sud de la France, notamment ces vases celtiques. Et donc il y a tout un jeu d'échange entre ces grandes civilisations méditerranéennes qui s'échangent le meilleur d'eux. Et ces grands aristocrates gaulois, ces grandes familles gauloises qui contrôlent ces runes, ce sont des guerriers, des mercenaires qui vont guerroyer aussi. À l'appui des armées d'Alexandre le Grand, des armées grecques, des armées étrusques. Et donc, tous ces éléments, il faut que lorsqu'ils reviennent au pays, ils reviennent avec des nouvelles marchandises, nouvelles images. Et on s'échange ainsi, comme ça, il y a un métissage progressif de cette société.
Ah, mais il y avait aussi une activité militaire, c'est-à-dire on produisait des armes et on produisait des mercenaires qui s'exportaient.
Oui, ce sont vraiment les textes antiques montrent que les mercenaires gaulois étaient très recherchés, leurs armes également. On voit que ce sont des objets aussi de luxe, ces armes, puisqu'on a la chance d'avoir en Cérune certaines de ces parures qui sont notamment ornées de corail, par exemple incrustées, donc de l'armement très raffiné, mais aussi des armements symboliques, certainement qui portaient des symboles de ces grandes familles ou de ces grands militaires.
Ah oui, ça c'est surprenant parce que on l'imagine assez mal. Alors ça, c'est donc l'artisanat, l'art militaire, mais sur le plan de la nourriture, donc ce qu'on avait à vendre surtout, donc c'était des céréales.
Alors les céréales, manifestement en tout cas dans le cas d'un Cérune, c'est vraiment une particularité. Il y a plus de 300 silos qui ont été fouillés sur la colline, des silos énormes, donc de grands trous qui ont été creusés dans la colline pour y stocker des milliers de litres de céréales. Et à partir du second siècle avant Jésus-Christ, c'est la vigne qui va prendre le relais. Donc on a découvert en Cérune donc des grandes jarres, on appelle ça des doliums en latin, donc de très grandes jarres qui servaient à stocker les liquides, à vinifier. Et donc progressivement, à partir du second siècle en Jésus-Christ, après les céréales, la deuxième richesse certainement de ce secteur, autour de Béziers, autour d'Ancérune, autour de Narbonne, ça va être l'histoire de la vigne et du commerce de la vigne.
Oui, mais là c'est les Romains qui l'importent.
Alors, on voit que déjà, il y a des contacts certainement plus anciens. Les Grecs ont dû jouer un rôle, les Ibères, puisqu'ils vinifient déjà très tôt. Et puis les Romains vont amplifier le système à une échelle jamais connue jusqu'alors.
Alors voilà donc un tableau, un portrait de toutes ces activités qu'on a du mal à imaginer à cet endroit-là. Donc, c'était une ville ou une cité qui vivait véritablement. Est-ce qu'on a une idée du moment où elle disparaît un petit peu, je dirais, des écrans radars ?
Alors aujourd'hui, dans le cadre du chantier, on a réétudié des collections, on a des chercheurs, des étudiants qui viennent travailler sur nos collections, qui travaillent aussi sur la cité de Narbonne, mais aussi sur Ancérune. Et on se rend compte que à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ, on a de moins en moins de traces, de témoignages, de présence sur la colline.
Ça périclite à partir de ce moment-là.
Oui, alors on n'a pas une date exacte, on ne peut pas donner une date exacte, mais on se rend bien compte que, alors il y a encore quelques grandes demeures un peu aristocratiques qui ont été construites en Cérune avec des mosaïques, des enduits-peints, un peu ce qu'on retrouve.
À l'époque romaine.
Donc on voit qu'il y a encore des grandes familles qui ont les moyens de faire vivre cette cité, mais progressivement, à la fois avec la création de la capitale à Narbonne, qui prend vraiment une ampleur très importante, et le casernement des vétérans de la Légion à Béziers, donc la garnison, progressivement, le rôle d'Anne Cérune va devenir moindre, et ce sont ces deux cités, Narbonne-les-Béziers, qui vont prendre le relais. C'est une chance pour nous, puisqu'en fait, pour les archéologues, il n'y a pas eu de
cité. Ça fige les choses.
Voilà, ça a mieux conservé les vestiges de la cité, qui ont été abandonnés, des ruines. Et donc, on n'a pas une cité médiévale ou moderne qui est venue se surimposer. Mmh. Et donc, quand les archéologues découvrent le site au début du XXe siècle, le site est assez bien conservé.
Oui, voilà, c'est l'avantage. Alors, on entre maintenant de plein pied, Lionel Isaac, dans l'histoire moderne de cet oppidum dans ses ruines. À quel moment on le redécouvre?
Alors, au début du XXe siècle, on a plusieurs archéologues. Alors, Henri Rousseau, qui a beaucoup fouillé à Narbonne aussi, qui va venir faire quelques fouilles à Anse-et-Rune, puis après, il va aller plutôt fouiller l'oppidum de Montlaurès, une autre cité celtique près de Narbonne. Mais c'est surtout Félix Mouret, un érudit local, qui se pique de botanique, qui vient avec son cheval sur la colline et qui perçoit des vestiges, achète des terrains, et commence la fouille, et il a beaucoup de chance, puisque dès le premier coup de pioche, donc là on est en 1906, il va découvrir des tombes, le cimetière dans ses runes, qui vont livrer des vases, notamment des vases grecs extraordinaires qu'on n'avait jamais découverts en France, puisque ces vases qui étaient posés dans les tombes de ces Celtes, qui commerçaient avec les Grecs, qui leur servent de d'urnes cinéraires, ce sont les cendres de ces guerriers qui sont dans, ou de ces habitants qui sont dans ces vases. Et donc là, il y a une sorte d'émerveillement sur ces découvertes. Et donc, on décide à cette époque-là de se lancer progressivement dans la valorisation de ces sites et dans des fouilles de plus en plus extensives et donc qui ne se sont jamais arrêtées.
C'est là que les fouilles commencent alors.
Voilà, c'est vraiment le début de l'histoire des fouilles et qui vont vraiment s'intensifier après la Première Guerre mondiale, notamment durant les années 30.
Oui, et alors la suite, alors là, pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui.
Alors, l'idée c'était aussi de créer un musée de site, c'est un des premiers en France, et aujourd'hui encore on a des fouilles, donc on a quasiment un siècle de recherche continue qui ont permis de découvrir vraiment les quartiers, une partie des cités qui a été ensuite classée monument historique, qui a été valorisée, on peut aujourd'hui encore voir ces quartiers lorsqu'on fait la visite dans ces ruines, et puis surtout une collection archéologique unique faite de tous les éléments qui ont été découverts pendant un siècle et qui sont encore aujourd'hui découverts, puisqu'on a une équipe de Toulouse, de l'École des hautes études en sciences sociales, Philippe Boissineau, professeur à Toulouse, qui anime chaque année des chantiers de fouilles et un projet collectif de recherche qui fédère une vingtaine de chercheurs du CNRS, de l'université, d'autres institutions qui travaillent avec nous sur nos collections et sur ce site.
Et là, où est-ce qu'on fouille essentiellement? La colline?
Alors, aujourd'hui,
ou la plaine?
Le sommet de la colline a été beaucoup fouillé, donc on a fait plutôt le choix de travailler sur les pentes qui sont moins connues et pour mieux comprendre aussi les accès à la cité, ce qui a permis de découvrir un second rempart complètement inédit, inconnu jusqu'alors, et qui a permis de comprendre que l'ensemble de la colline était enserré par un dispositif de rempart à partir du 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, et donc d'étendre, si on peut dire, la connaissance et la superficie globale de cette cité.
Oui, et ça laisse deviner encore, et ça laisse du champ pour des fouilles futures.
Oui, on a finalement, quand on regarde les 22 hectares de cette colline, on a fouillé peut-être 2-3% de la superficie totale.
Ah oui, donc, c'est ce que vous évaluez.
Voilà, donc on a à la fois des réserves archéologiques, des endroits où on veut préserver ces vestiges, puis d'autres secteurs où on se pose des questions, il y a des problématiques de recherche, et on va essayer de répondre à ces questions avec les équipes d'archéologues.
Oui, donc c'est un site qui a encore un grand avenir archéologique.
Oui, on espère continuer, avec l'aide de la Direction des Affaires Culturelles Occitanie, à travailler sur ces chantiers de fouilles pour résoudre un ensemble de questions qui sont aujourd'hui sans réponse, puisque voilà, c'est la recherche, donc il y a encore des questions.
Et donc, là, on l'a évoqué, Lionel Isaac, il y a 2 ans, vous avez donc finalisé le musée. Donc, pour le moment, vous avez ce qu'il faut au point de vue construction pour accueillir le touriste.
Alors, aujourd'hui, on a finalisé en effet ce grand projet de raménagement, un nouveau bâtiment d'accueil, le musée avec sa nouvelle scénographie, un grand chantier qui a été fait sur les collections pour les restaurer, près de 1000 objets qui ont été restaurés, qui sont présentés avec une scénographie contemporaine. Mais on a également fait des travaux qu'on est en train d'achever dans le parc pour le rendre plus accessible, plus agréable à la visite, avec des pupitres aussi qui ont été installés pour expliquer les vestiges directement sur le site, et puis des programmes d'exposition temporaires qu'on met en place aussi pour renouveler un petit peu l'actualité sur les nouvelles découvertes ou sur les nouvelles thématiques que l'on traite sur l'oppidum.
Voilà, eh bien, un tour d'horizon intéressant donc pour nos auditeurs, pour l'oppidum de dans ces runes, sur la commune de Nice, sans les anciennes runes, situant-le géographiquement, c'est pas loin de Béziers, entre Narbonne et Béziers, mais un peu plus près de Béziers.
Oui, oui, on est à 10 minutes de Béziers, et c'est vrai qu'on a cette possibilité d'accès qui est assez simple, directement à Nice, sans les anciennes runes. On ouvre le mi-juin la nouvelle exposition sur la 3D et l'archéologie, donc en 10 minutes, on peut venir découvrir la nouvelle exposition sans aucun problème depuis Béziers.
Voilà, merci pour toutes ces précisions et dans cette deuxième partie qu'on a consacrée essentiellement donc à une de vos responsabilités. Je laisse le suspense pour la troisième. On va parler de la forteresse de Salses.